l'infiltration des services secrets soviétiques, auquel on a mis un terme, mais c'est une forme musicale de KGB qui est un groupe marseillais. Non, c'est un groupe marseillais, KGB. Une paire, ah, tout seul à lui, tout seul. Ah, magnifique, c'est le Poutine du rap. Alors. Voilà, bon, on va faire une émission normale avec l'actualité. Merci Aïcha d'être avec nous, au pupitre, aux commandes. Et bonjour à
Avec plaisir.
Merci. Avec Roselyne et Habib.
Bonjour.
Sont, voilà, bonjour. Comme d'habitude. Je vais commencer par vous promener un petit peu à Hong Kong.
Ah, ça y est, c'est
parce
fait.
Que, voilà, oui, c'est pour faire un peu d'histoire longue à la chinoise. Alors, Hong Kong, ça a donné lieu cette semaine, donc samedi très précisément, ou vendredi, je crois, le 1er juillet, à une visite du président chinois. Alors, pourquoi il a visité ? D'abord parce qu'il est chez lui. Hong Kong, c'est en Chine. Hein, je précise que les choses soient bien claires. Il n'a pas envahi Hong Kong avec l'armée populaire. Bon, il est chez lui parce que le territoire de Hong Kong, ancienne colonie britannique, fait partie du territoire de la République populaire chinoise. Ça c'est acquis. Alors, c'est acquis. C'est pas rentré dans l'esprit de tout le monde. Il y a des gens qui voudraient bien que cet acquis-là soit remis en question. Mais si précisément le président chinois est venu le 1er juillet 2022 à Hong Kong, c'est qu'il voulait manifester une certaine satisfaction. Pourquoi venir le 1er juillet 2022 ? Ben tout simplement pour célébrer les 25 années de l'accord du rattachement du territoire colonial de Hong Kong, colonie britannique, donc, à la République populaire de Chine. Ça s'est passé effectivement le 1er juillet 1997. Et c'est un processus qui est en cours, qui est exactement à mi-chemin, d'où l'intérêt central de la visite du président chinois, à mi-chemin de son aboutissement, qui aura lieu dans 25 ans. Donc ça sera le 1er juillet 2047, où ce jour-là, le territoire de l'ancienne colonie britannique sera intégré totalement dans la République populaire chinoise. Et pendant le demi-siècle qui a été fixé et dont les processus sont respectés par les signataires, pendant le demi-siècle, Hong Kong a évolué pour arriver à rentrer sans difficulté dans le sein de la République chinoise et en gardant assez longtemps, puisqu'on est encore dans cette phase-là, il y a des gens qui aujourd'hui habitent à Hong Kong, qui ont été citoyens de Sa Gracieuse Majesté britannique et qui continuent à bénéficier de certaines libertés, de certaines facilités, de l'usage de la langue anglaise permanent, outre le fait que les Chinois parlent plutôt le cantonais d'ailleurs que le mandarin à Hong Kong, et qui donc là sont eux aussi dans un processus, et donc on peut imaginer que ceux qui ont vécu l'intégration de Hong Kong dans la République populaire le 1er juillet 1997, dans 25 ans, ils seront à l'âge où ils prendront une bonne retraite sans avoir de soucis et sans être inquiétés. Mais j'insiste là-dessus parce qu'on est dans le cadre de procédés et de processus plutôt à la chinoise avec des perspectives qui sont des perspectives d'un siècle, d'un demi-siècle, etc. C'est ça le rythme chinois. Pourquoi c'est le rythme chinois ? Non pas parce que les Chinois sont lents. D'ailleurs, essayez de marcher dans une foule chinoise et vous serez convaincu que les Chinois ne sont pas lents du tout, du tout. Hein ? Mais par contre, dans les processus collectifs liés à la taille du pays, à ses traditions à la fois impériales et politiques, le pays va à son rythme, c'est-à-dire qu'il veut que l'ensemble de la population avance dans un processus de transformation. Et c'est ça, donc, ce processus de l'intégration progressive du territoire de Hong Kong dans la République populaire chinoise. Quand le 1er juillet 1987, l'accord est signé entre Mme Thatcher et le président Deng Xiaoping, on est déjà au bout de presque 10 années de négociations. Pas tout à fait. C'est-à-dire que pour arriver à ce qui a été considéré par Margaret Thatcher et par les impérialistes britanniques comme une capitulation devant la Chine, il a fallu tout un travail de négociation assez long, mené là aussi à la chinoise, tranquillement, pour arriver à un but qui était tout à fait clair. La colonisation de la Chine s'est terminée. Ça s'est terminé très facilement à Macao, qui était l'autre colonie occidentale. Là, c'est terminé beaucoup plus difficilement, parce qu'on n'avait pas affaire au Portugal, mais on avait affaire à la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, avec une tradition colonialiste, impérialiste, et c'était moins facile de négocier avec la Grande-Bretagne qu'avec les Portugais. D'ailleurs, avec les Portugais, ça a été tellement facile que c'est les Chinois qui ont refusé la décolonisation dans un premier temps. Je raconte l'histoire parce qu'elle est cocasse, mais elle est amusante. C'est-à-dire que, vous savez qu'en avril 1974, il y a une révolution au Portugal, où donc les jeunes officiers renversent la dictature, et un des premiers actes, c'est pas tout de suite dans les premiers jours d'avril 1974, mais un des premiers actes des nouveaux gouvernements, donc montés à la suite de la révolution, du coup d'État donc d'avril 1974, c'est de dire, c'est d'écrire à la Chine en disant « Prenez Hong Kong, c'est à vous, on n'en parle plus ». Et les Chinois disent « On n'est pas pressé, c'est pas le moment ». Et ça, oui, et ça se fera un peu plus longtemps. Alors c'est vrai que l'enjeu était moindre que Hong Kong, parce que Macao, et c'était ce qu'on appelait à l'époque, et ce qui était vrai, l'enfer du jeu, c'était un tripot, bon, Macao principalement, et les Chinois, il n'y avait pas beaucoup d'activités donc de finances internationales à la différence de Hong Kong. Donc les Chinois, effectivement, n'étaient pas pressés. Je n'ai pas en tête l'année à laquelle, finalement, la Chine a dit « Bon, si vous voulez nous le donner, donnez-le, on prend Macao bon. ». Et Macao a été intégré dans la République populaire sous le même régime quand même, de principe que Hong Kong. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la négociation longue entre donc le gouvernement chinois et Mme Thatcher, qui, vous l'imaginez, enfin j'insiste pas trop, mais Mme Thatcher est un négociateur difficile qui n'accepte pas de laisser des prérogatives de l'Empire britannique disparaître comme ça. Donc il a fallu que les Chinois tiennent bon et puis qu'ils mettent en avant le principe qui vaut toujours, c'est-à-dire un seul territoire, deux régimes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est incontestable que la Chine est souveraine sur le territoire de Hong Kong. Il est incontestable que l'armée populaire de libération peut y venir, si nécessaire, à tout moment. Il y a une police locale, mais l'armée populaire chinoise est chez elle. Hein, c'est parfaitement clair. Et en même temps, deux régimes, ça veut dire qu'effectivement, il y a une espèce de constitution provisoire pour 50 ans quand même du territoire de Hong Kong qui va l'amener petit à petit à trouver sa place comme tous les autres dans la République populaire dans son ensemble. C'est ça, deux régimes, avec un régime avec des expressions particulières, un mode d'élection d'un gouvernement autonome local qui est particulier, qui s'exerce en aucune autre région de la Chine, qui s'exerce par copiage, enfin, par similarité à Macao, mais les enjeux sont beaucoup moindres. Et donc on a ça qui fonctionne, et ce que voulait dire la visite de Deng Xiaoping, de Xi Jinping, elle signifiait que ce processus continue, malgré, alors vous vous souvenez tous des événements d'il y a 2-3 ans, les mouvements de rue et tout, malgré le fait qu'il existe encore des nostalgiques de la colonisation, il en existe en Hong Kong même, puis il en existe en Grande-Bretagne, il en existe aux États-Unis, qui aimeraient bien que ce processus capote, c'est-à-dire n'arrive. Et puis, ils ont en tête en disant, en plus, si la preuve se fait qu'il est possible, en prenant son temps dans des conditions qui ne mettent pas en cause la bonne santé du territoire, la production du territoire, car je signale que depuis 1997, le PIB de Hong Kong tout seul a doublé. On n'a pas laissé, il n'y a pas eu sanction de la République populaire contre l'ancienne colonie. Ce n'est pas vrai. Il y a eu des grosses améliorations, de gros investissements. Donc Hong Kong a été soigné et puis a son système d'expression propre avec son gouvernement local, comme il y en a un autre à Macao.
Depuis 1999 à Macao.
Voilà, ouais. Tu as vérifié. Voilà, parce que là, je dis ça là, ils n'étaient pas pressés, puis il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas la puissance économique et bancaire, financière, qui était... Hong Kong, c'était la principale place boursière de Chine, enfin, de l'Empire chinois. C'était le premier port chinois à l'époque. C'était quelque chose comme 20% du PIB de la Chine populaire. C'était considérable. Donc, effectivement, il n'était pas question de se séparer. Et en même temps, ce qu'ont fait les Chinois, qu'est-ce que ça voulait dire, cette approche en un demi-siècle ? Ça veut dire... La Chine prend possession, elle est chez elle, c'est clair, il y a un acte de propriété dûment notarié par Mme Margaret Thatcher, hein, mais en même temps, on les laisse vivre. Et puis surtout, on vient apprendre comment ils fonctionnent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans une colonie britannique où il y a donc une très très grande bourse des valeurs, qui était à l'époque la plus grande de tout l'Extrême-Orient, où il y a un très très grand port, eh bien on apprend. On apprend le métier, on regarde comment ils travaillent, et puis on s'inspire. Mais ce n'est pas pour simplement dire on va continuer à les laisser faire. Simplement, on apprend, et puis ce qu'on apprend là, on l'appliquera ailleurs. Résultat, d'ailleurs, aujourd'hui, les plus grands ports chinois ne sont pas Hong Kong. Hein, Hong Kong n'a pas perdu toute sa place, mais il a perdu de son lustre et de son importance. Hong Kong, en 1997, c'est incontournable pour l'économie chinoise. L'économie chinoise ne peut pas se couper de Hong Kong. Elle a besoin de cette place financière parce que les investissements étrangers arrivent. Elle a besoin de ce port. C'est par là que sortent les premières exportations chinoises qui ne sont pas au niveau où elles sont aujourd'hui, mais c'est quand même par là que ça sort. Et ce que font les Chinois, c'est en même temps, Hong Kong, on laisse faire, on laisse travailler. Ils savent faire beaucoup de choses. On regarde comment ils font. Et puis en même temps, on va leur faire comprendre que de toute façon, on ne perd pas notre temps et on n'attend pas qu'ils nous donnent des leçons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que juste à la limite de ce qu'on appelle les nouveaux territoires, vous savez qu'il y a Hong Kong, c'est une île d'abord, l'île de Victoria, et puis des quartiers qu'on appelle Kowloon, et puis après des zones un peu agricoles, pas très très, quelques kilomètres, qu'on appelle les nouveaux territoires, et on arrive à la limite territoriale du territoire de Hong Kong, république séparée, autonome pour l'instant, et de la République populaire. Ce que fait la Chine, c'est qu'en même temps où elle dit à Hong Kong, continuez votre travail, nous on vous laisse faire, vous avez votre liberté pour 50 ans, etc., on n'y touche pas. Par contre, on va aussi créer, nous, un autre port, juste de l'autre côté de la barrière. Et ils choisissent un petit port de pêche qui aujourd'hui est devenu un des principaux ports du monde et qui est le siège d'une bourse des valeurs qui est la seconde après Shanghai dans la République populaire, qui dépasse en volume d'affaires celle de Hong Kong, qui s'appelle Shenzhen. Vous avez peut-être entendu ce nom. Alors imaginez, ça aussi c'est un processus chinois, c'est-à-dire qu'au moment où Deng Xiaoping et son équipe négocient le retour de Hong Kong dans la mère patrie chinoise, ils se disent de toute façon, il ne faut pas que ces braves gens nous disent qu'ils savent tout faire et que nous on est nuls. Hein. C'est ça, enfin, je formule en langage de monsieur tout le monde. Et on va leur montrer qu'on n'est pas nuls, on va leur fabriquer un deuxième Hong Kong juste de l'autre côté de la frontière. Résultat, le petit port de pêche compte aujourd'hui 10 millions d'habitants. Il y a plus de volume de trafic portuaire que Hong Kong. Et c'est la deuxième bourse chinoise après celle de Shanghai. Ouais. Alors comment ils ont fait ? Parce que ça, c'est bien joli de dire on va faire un deuxième port et on va faire une ville nouvelle. Mais comment on le fait et avec qui ? Et là aussi, on est toujours dans ces processus d'acculturation et d'apprentissage. Ce que fait la Chine, c'est le moment où elle crée ce qu'on appelle les zones économiques spéciales. Elle dit, on ne va pas dire à Shenzhen, on fait venir n'importe qui, on crée des usines, on crée des routes, on crée des bâtiments, etc. On va sélectionner le meilleur de la classe ouvrière chinoise, les meilleurs contremaîtres en ceci, en cela, dans toutes les industries. Et on va leur dire, installez. Donc ils ont un permis de venir travailler à Hong Kong. Et on va mettre, j'allais dire, la fine fleur du prolétariat chinois au travail à Shenzhen en disant, maintenant, vous devez montrer que vous êtes aussi bon que les Occidentaux. Et c'est ça qui se passe. Alors ça ne se voit pas tout de suite, ça ne se voit pas la première année. Mais au bout de 25 ans, on peut le dire. Hein. Et donc si, après ça, une fois que ces équipes, ces travailleurs chinois, ces contremaîtres chinois, ces ingénieurs chinois ont appris tout ce qu'il faut dans les entreprises étrangères qui sont acceptées à Shenzhen, je précise, c'est des capitalistes américains, allemands, etc., qui ouvrent des entreprises, hein, des gens qui fabriquent par exemple des téléphones portables, des gens, je sais pas, et bien, au bout de 25 ans, on a, je dis, une puissance de travail, une capacité donc ouvrière, prolétaire, salariée, chinoise, qui est au niveau international, parce qu'elle a appris les leçons et qu'elle s'en est donné les moyens. Mais ça aussi, il a fallu tout ce processus de sélection par le gouvernement chinois. On ne pouvait pas dire « je quitte ma campagne, je vais travailler à Shenzhen ». Non, on n'y venait que si on était considéré comme déjà bien capable dans une discipline technique ou autre, mécanicien, ajusteur, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et on participait à un processus qui était un processus national décidé pour montrer que la Chine était capable de faire des grandes choses dès l'instant où elle en avait les moyens. C'est ça l'histoire de Hong Kong. Alors il reste encore 25 ans d'histoire à écrire, mais de toute façon, ce que je vous dis montre que les capitalistes de Hong Kong, il y en a encore, mais ne sont pas en mesure de peser sur le gouvernement chinois pour dire si on se fâche, si on décide de plus travailler ou s'il y a une rupture des relations économiques, la Chine souffre. La Chine souffrirait beaucoup, beaucoup. Elle souffrirait encore un peu, ça ne fait pas de doute. Mais beaucoup moins qu'elle aurait souffert si en 97, il y aurait pu y avoir la limite, la guerre, si ça s'était mal terminé. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc effectivement, dans 25 ans, ce qui reste de capitalistes à l'ancienne, rentrera à la maison, prendra sa retraite et la Chine sera complètement chez elle. On sortira donc d'un territoire, deux régimes.
Il a été bien reçu, le président chinois.
Oui, hein, alors il a fait ce qu'il fallait, mais il a montré qu'effectivement, et c'est vrai que ça se voit sur le terrain, on voit sur le terrain que Hong Kong n'a pas été négligé, n'a pas été puni. C'est pas les Hongkongais, c'est pas les Chinois de Hong Kong, c'est pas eux qui ont fait venir les Britanniques, ils en ont souffert tout autant que les autres, hein, de la révolution de l'opium, etc. Bon, et donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vous dis, les investissements ont continué dans la ville de Hong Kong, le travail s'est fait, le PIB a grossi, donc il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de reproche à faire en termes économiques. Les seules façons de mobiliser la population comme ça s'est fait il y a 2 ans à Hong Kong, c'est de s'investir sur des questions qu'on appelle des questions sociétales. Alors, par exemple, sur les questions qui font débat encore en Chine, sur la question de l'homosexualité, des choses comme ça. Et il ne reste que ce seul mode de critique ou de fabrication d'une opposition à défaut de tous les autres. Bon. C'est très clair que ça, c'est le seul des achats. Et puis, le fait qu'il y ait un consulat des États-Unis très, très actif et très remuant à Hong Kong fait que les Hongkongais qui manifestent, on en a vu il y a de ça 2 ans, sont soutenus, j'allais dire, même, c'est tout à fait clair, pilotés par le consulat des États-Unis. Mais ça, le gouvernement chinois le sait mieux que quiconque.
Ça compte partout.
Voilà. Et puis, il a ses agents sur place. Alors, dernière indication là-dessus. Pour que Mme Thatcher capitule. Bon, elle a dit, je ne choisis pas le traitement par les armes. Pas possible. Bon, j'y arriverai pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, en fait, elle ne pouvait rien faire. Parce que pendant les années de la négociation qui préparait donc le retour de Hong Kong à la mère patrie, les Chinois s'étaient organisés. De telle façon qu'à un moment donné, les négociateurs chinois ont dit aux négociateurs britanniques, vous savez, toute l'eau potable qui arrive dans la ville de Hong Kong, elle vient de chez nous, de l'autre côté de la barrière. Tous les fruits et légumes, dans leur très grande majorité, viennent aussi de l'autre côté de la barrière, etc. Et puis, ils sont aperçus aussi. Alors donc, c'était de dire, vous savez, vous ne pouvez pas vivre sans nous, en fait. On est de bonne volonté, vous aurez de l'eau, vous aurez de la nourriture, mais ça viendra du territoire de la République populaire. Et puis, on s'est aperçu, ça, c'était les gens qui étaient dans les milieux d'affaires, que dans tous les conseils d'administration des banques hongkongaises, il y avait des Chinois très, très pointus en matière bancaire, etc., qui connaissaient la finance internationale, qui avaient la carte du Parti communiste chinois. Horreur ! Horreur ! Et oui, et donc, voilà, le fruit était mûr, et donc il est tombé, et Mme Thatcher a tiré un coup de chapeau, disant « Je m'en vais, la mort dans l'âme », mais ce n'était pas l'Argentine et les Malouines, c'était effectivement une autre paire de manches, comme on dit. Une transition géniale, hein, c'est de parler de l'Argentine. Je viens de citer Mme Thatcher et les Malouines pour dire qu'il s'est tenu un sommet des BRICS en vidéo. Donc la semaine dernière, je l'avais évoqué. Donc les BRICS, je le rappelle, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Donc une association d'États très différents politiquement, dans leur taille, hein, ça va de 50 millions d'habitants ou 55 en Afrique du Sud à 1,4 milliard en Chine, dans des continents différents, avec des équipes dirigeantes très, très différentes, un seul gouvernement dirigé par un parti communiste, les Chinois. Les Indiens, ils sont là, alors qu'en fait, on peut, et c'est vrai, considérer que les relations entre ces deux énormes masses que sont la Chine et l'Inde, masse territoriale d'abord, encore que la Chine soit sensiblement plus grande que l'Inde, mais c'est des énormes masses démographiques. Et puis, surtout, c'est des deux pays ou deux ensembles géographiques qui ont des histoires extrêmement longues et qui ont pas ou peu d'histoires communes. Et avec un reste de rivalité qui est plurimillénaire. Je dis quelques mots sur l'espace indien. L'espace indien, c'est, dans l'histoire, c'est les Védas, c'est une religion, l'hindouisme. C'est après une religion, le bouddhisme, qui enverra des émissaires en Chine, mais le bouddhisme ne prendra pas la Chine. Il y aura même des empereurs chinois qui seront bouddhistes, mais la population ne se convertira pas. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Il y a des temples bouddhistes un peu partout en Chine, mais il y a quelques dizaines de millions de bouddhistes. Hein. Donc la culture indienne, pas plus les Védas que le bouddhisme, toute cette culture de plurimillénaire indienne, n'a jamais envahi la Chine. Et réciproquement, la culture chinoise n'a pas non plus envahi l'Inde. On a affaire à deux entités avec des cultures longues, des populations particulières, des histoires très, très particulières, alors qui ont de temps en temps... Il y a des frottements, parce qu'ils sont côte à côte, hein, et puis ils sont à peu près de la même taille, mais c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Et donc, intégrer dans les BRICS l'Inde et la Chine, c'est dire on est là pour coopérer sur les affaires qu'on a en commun, sur les intérêts qu'on peut avoir en commun, économiques, sociaux, etc. Mais on n'est pas là pour s'intégrer dans une alliance qui n'a jamais fonctionné, et on ne cherche pas à faire fonctionner une alliance. Ce n'est pas, c'est pas un deuxième OTAN, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est ça qu'il faut se mettre dans l'idée. Et c'est sur ces bases-là, d'ailleurs, que je le rappelais la semaine dernière, qu'on s'est inquiété en disant le Brésil de Lula et de Dilma Rousseff est rentré dans les BRICS, et ça allait de soi parce que c'était un geste justement d'intégrer l'Amérique latine, et puis un geste, un clin d'œil, disons, à des pays, à des grands pays qui permettaient au Brésil de desserrer l'étreinte des États-Unis. Et en fait, Bolsonaro a continué, c'est-à-dire que le Brésil de Bolsonaro n'a pas quitté les BRICS, parce qu'il y a des intérêts économiques, il y a des accords, il y a des échanges de minerais, de produits agricoles, etc. Et donc il n'y a pas de raison. Et cette économie donc de 200 et quelques millions d'habitants brésiliennes, elle est bien intégrée dans le dispositif commun. Mais c'est tout autre chose. Donc il ne faut pas le considérer comme un anti-OTAN. Ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a pas d'accord militaire. Il y a des accords de financement d'investissement. Il y a des échanges commerciaux. Il y a des échanges de missions commerciales. Enfin, il y a tout un travail, des échanges de moyens de transport, etc. Pas plus. Pas plus. Et c'est du fait de cette souplesse des BRICS que deux candidatures ont été approuvées au sommet des BRICS, qui sont la candidature de l'Iran d'un côté et la candidature de l'Argentine de l'autre. Alors même chose, on pourrait dire, les rapports entre l'Argentine et le Brésil n'ont pas toujours été faciles. C'est les deux plus gros pays d'Amérique latine, l'un de culture portugaise, l'autre de culture espagnole. Et en fait, si on les regardait l'un à côté de l'autre, il y en a un qui fait de l'ombre à l'autre. Mais en fait, là, dans le dispositif des BRICS, chacun trouvera sa place. Place très importante en matière de production agricole pour l'Argentine, en matière de production de certains minerais aussi. Voilà. Donc l'Argentine va rentrer et l'Iran va rentrer. Alors ça ne se fait pas quand même du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, puisque j'insiste là-dessus. La Chine a dit « mais bienvenue au nouveau, pas de souci ». Mais c'est la Russie qui a dit « mais il faut que maintenant qu'on devient nombreux et que d'autres frappent à la porte », puisqu'il y a déjà des gens qui frappent à la porte, comme la Turquie, comme d'autres pays. Donc c'est la Russie qui a dit « soyons quand même prudents ». On sait qu'on fonctionne dans un cadre très souple où chacun vient avec son histoire, son passé, son régime économique, son régime social. Il faut qu'on noue des relations. Il faut que ce soit une espèce, j'allais dire, je ne sais pas si les Russes l'ont dit, un oasis de la multipolarité. Mais ce n'est pas l'auberge espagnole où chacun rentre, sort et défend ses intérêts. Non, on a des intérêts communs, on les explique, on les met sur la table. On dit, vous avez cet intérêt, moi j'ai tel autre. On va trouver un modus vivendi ensemble. Et un modus vivendi, à 7, ça sera un peu plus compliqué qu'à 5, mais ça se fera. Parce que dans le BRICS, il y a aussi des relations bilatérales. C'est-à-dire, par exemple, je m'arrête sur le cas des relations entre la Russie et l'Inde. Les rapports entre la Russie et l'Inde sont de bien meilleure qualité que les rapports entre l'Inde et la Chine. Or, le fait qu'ils soient tous dans les BRICS, ça facilite aussi. Mais en fait, ce qui permet aux BRICS de fonctionner dans le cas sur lequel je m'arrête, c'est que l'Inde n'a pas peur de la Russie, alors qu'elle a peur de la Chine. Et donc, chaque fois qu'il y a un accrochage ou une tension, c'est la Russie qui fait les bons offices en disant « on va se comprendre ». Il y a tout un passé là-derrière. C'est-à-dire que vous savez que l'Inde s'est libérée donc, de la tutelle coloniale en 1947 et qu'après, l'Inde a suivi, donc, du temps de Gandhi, surtout de Nehru et de la famille Gandhi, un chemin plutôt pro-soviétique. Et ce qui les a amenés, là aussi, à une espèce de collision avec la Chine maoïste qui, à un moment donné, enfin, il faut se souvenir, ça fait partie de l'histoire de la planète, et ça fait partie de l'histoire du mouvement communiste mondial, c'est-à-dire qu'on est passé entre la Russie, enfin l'URSS socialiste et la Chine socialiste, dans une période de tension extrême, de concurrence à l'intérieur du système communiste, qui a fait qu'on est passé très près de la guerre entre ces deux.
C'est pas loin.
C'était pas loin, hein, c'était pas loin. Il faut savoir qu'une partie de l'industrie chinoise de l'époque, qui était donc plutôt dans les régions du nord où il y a des mines de charbon, etc., a été repliée au sud de peur d'une invasion soviétique. Bon, ça, on l'oublie. Et à ce moment-là, les rapports entre l'URSS et l'Inde ont toujours été bons. Les rapports militaires, les rapports politiques, parce qu'à aucun moment, l'Inde n'a eu peur de l'URSS parce qu'il n'y avait pas concurrence. Et l'URSS n'avait pas peur de l'Inde non plus parce que le pouvoir en Inde n'était pas exercé par un parti communiste. Il en existe en Inde, bien entendu, mais qui était concurrent, qui était au pouvoir. Donc tout ça, c'est des rapports qui sont historiquement connus, fondé et important pour qu'on fonctionne dans les BRICS. De la même façon, ça se posera pour les rapports entre l'Argentine et le Brésil. Il faudra tenir compte du passé, des deux types de colonisation, des deux types d'indépendance.
Des cultures différentes.
Voilà, des cultures, bien entendu. Mais ça fait partie de l'architecture des BRICS. Donc il faut bien, j'insiste là-dessus, c'est pas l'anti-OTAN, en aucun, ça n'a aucun caractère militaire. C'est un lieu où on est d'accord sur la multipolarité, c'est-à-dire
que... Justement, prudence oblige.
Absolument, exactement. Et donc les nouveaux venus seront obligés, c'est pour ça que la Russie dit, on va quand même essayer de préciser un certain nombre de règles, quitte même, parce que c'est en filigrane dans les propos du ministre des Affaires étrangères russe ou de la porte-parole, puisqu'il y a des rapports un peu particuliers, peut-être un deuxième cercle. Il y aurait les fondateurs, plus les deux nouveaux qui sont acceptés, je pense, et puis il y aurait peut-être un cercle les amis des BRICS, avec lesquels on entretenait des rapports particuliers, pour ne pas les intégrer tout de suite dans la mécanique. Je pense par exemple au cas de la Turquie. La Turquie pose un véritable problème, puisque intégrer, je signale qu'aucun des membres des BRICS pour l'instant, et encore moins avec l'Argentine et l'Iran, ne fait partie de l'OTAN.
Voilà ce que j'allais
voilà.
Ouais,
mais intégrer dans les BRICS, qui sont un mécanisme principalement économique, un pays qui, d'une façon ou d'une autre, est quand même sous la tutelle des États-Unis, ça pose un problème de type particulier. Donc il faudra peut-être qu'il y ait un deuxième cercle, les amis des BRICS ou les associés aux BRICS, etc. Ça, c'est l'architecture du monde multipolaire qui se met en place sous nos yeux, mais les étapes se franchissent avec cet élargissement. C'est là-dessus que je voulais insister. Et puisque je suis à parler de la Russie, je vais en parler de différentes façons. Je vais en parler à propos des installations pétrolières et gazières de Sakhaline. Alors, si vous avez une carte en tête, Sakhaline, c'est une...
Sakhaline, c'est connu. Hein.
Oui, c'est une immense île donc, qui se situe. Si vous regardez l'archipel japonais comme un chapelet d'îles, la dernière, elle est plus japonaise, elle est très grande et elle est russe, elle s'appelle Sakhaline.
Sakhaline, ouais.
Bon. Après, donc, peu importe. Sakhaline est une île donc, russe où on a trouvé, et on en trouvera d'autres probablement, un énorme potentiel donc, qui est maintenant exploité de gaz et de pétrole, surtout du gaz. Et la mise en exploitation de ce gaz avait été organisée par une société dans laquelle étaient intervenus des capitaux japonais. Alors pourquoi des capitaux japonais? Parce qu'effectivement, le Japon étant dramatiquement dépourvu de ressources énergétiques et en particulier gazières, trouvait très intéressant d'avoir juste à quelques encablures de son île la plus septentrionale des gisements de gaz, exploités alors majoritairement par une société russe, mais ils avaient pris des capitaux. Ça, c'était jusqu'à la guerre d'Ukraine. Et puis, bien entendu, le Japon, qui a été grondé par son allié américain, plutôt son tuteur américain, disant « il n'était pas très chaud, on a bien vu que le Japon n'était pas trop prêt à prendre des sanctions contre la Russie, etc. » Enfin, les États-Unis sont passés derrière, et donc le Japon a commencé à prendre un certain nombre de mesures ou à marquer ses distances vis-à-vis de la Russie. La réponse, elle a été très claire. Elle a été sous la forme d'un décret signé par le président russe dans les derniers jours de juin, consistant à exclure les actionnaires japonais du gisement de Sakhaline. En disant, messieurs, puisque vous ne nous voulez pas, hein, puisque vous êtes en guerre, on vous oblige à être en guerre contre nous, ben on ne vous veut plus. Et donc, on vous rachète vos parts et vous pouvez aller vous rhabiller. C'est une réponse intéressante. Ça veut dire, vous décidez de nous faire des difficultés. Bon, donc, on n'a pas de raison d'être gentil avec vous. On n'a pas de raison de vous laisser utiliser, moyennant, bien entendu, vos investissements, nos ressources gazières. Donc, tant que vous serez dans ces dispositions d'esprit, ben, ça sera comme ça. Hein. Jusqu'à, alors, c'est pas dit, mais jusqu'à peut-être nouvel ordre. Hein. Ça fait partie des secousses qui sont consécutives aux sanctions, qui sont allongés. Les Japonais l'avaient vu venir, mais ils étaient un peu embêtés, mais ils n'osaient pas désobéir à Washington. Donc là, le décret de Poutine a dit, maintenant, vous n'avez pas compris, vous êtes contre nous, vous êtes contre nous, ça va, mais vous n'avez pas donc à utiliser nos ressources naturelles. Autrement, vous les paierez sur un prix beaucoup plus élevé, mais vous n'êtes pas actionnaire de nos sociétés à Sakhaline. Ça, c'est très intéressant à noter. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer les autres, puisque pour l'instant, dans la propriété du gisement de Sakhaline, qui s'appelle le gros, s'appelle Sakhaline 2, Gazprom, donc, qui est la grosse boîte russe, a 50% des parts. Les deux Japonais, qui sont Mitsui et Mitsubishi, donc deux des plus grands trusts japonais polyvalents, sachant à peu près tout faire dans toutes les industries, avaient au total 10 et 12, donc 22,5. Et le complément était entre les mains de la Shell. La Shell qui a encore, à la date d'aujourd'hui, 27,5%. Mais la Shell, c'est pas la compagnie d'un État. Elle a pas, à la différence des sociétés japonaises qui obéissent au gouvernement de Tokyo, la Shell, c'est, bon, je rappelle, elle est anglo-néerlandaise. Elle investit un peu partout. Elle fait partie des grandes sociétés pétrolières.
Multinationale, là.
Oui, c'est une multinationale, mais je veux dire, elle est d'abord, son siège est aux Pays-Bas, et puis elle n'est pas entre les mains du gouvernement de Washington, à la différence de Exxon ou d'autres comme ça. Et donc, pour l'instant, la Russie n'a pas dit qu'elle allait mettre à la porte Shell. Ça dépendra probablement de l'attitude concrète de Shell sur toute une série d'autres dossiers. Donc ça, c'est les évolutions en cours dans la sphère économique. Une autre évolution très intéressante, j'ai un petit schéma, mais ça n'a pas beaucoup d'importance finalement, tellement la démonstration est remarquable, il vient de se publier la balance commerciale de la République fédérale allemande. Alors qu'est-ce que c'est que la balance commerciale ? C'est le solde des importations et des exportations. C'est ça qu'on appelle la balance commerciale. Alors c'est très très simple. La balance commerciale de l'Allemagne fédérale, depuis l'année 1991, je ne le trouve pas, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, était en excédent de plus en plus marqué. C'est-à-dire que chaque année qui passe, qui est passée depuis 1980, sans discontinuer, l'excédent commercial, c'est-à-dire le bénéfice commercial de l'industrie allemande sur le marché mondial, n'arrêtait pas de croître. Alors ça, je rappelle aussi que dans le même temps où la balance commerciale allemande n'arrêtait pas d'être en excédent et de façon de plus en plus importante, la balance commerciale française n'arrêtait pas d'être en déficit, elle l'est toujours d'ailleurs. Et beaucoup, et je fais bien cette analyse, on dit que c'est à la faute de l'euro. L'euro est une monnaie forte qui avantage l'industrie allemande qui a des spécificités à l'exportation parce qu'elle est maître de toute une série d'activités productrices dans les machines, outils, des choses comme ça, qui fait qu'elle est très exportatrice, elle a beaucoup de clients. Elle a en plus bénéficié des main-d'œuvre pas chères des pays ex-socialistes qu'elle a colonisés économiquement. Alors quand je dis je ne veux pas vexer aucun Tchèque, aucun Roumain, aucun Slovaque, mais l'industrie allemande a colonisé économiquement tous les anciens pays socialistes de l'Europe de l'Est. Et donc une bonne partie des exportations allemandes viennent en fait de Bratislava, de Prague, etc., ou de Roumanie, ou de Bulgarie. Bon. C'est ça qui s'est passé. Et dans le même temps, la France s'est retrouvée en culotte courte, parce qu'elle n'a pas pu installer des industries ou racheter. Il y a un peu une usine Renault en Slovaquie, mais enfin, c'est rien comparé à l'industrie allemande. Et donc l'industrie allemande a pu avoir cette position extrêmement forte, parce qu'elle avait des spécificités, elle fabriquait des produits de bonne qualité qui faisaient prime sur le marché mondial. Et donc il y avait beaucoup de demandes, y compris même les Chinois ont énormément acheté de machines-outils allemandes pour démarrer leur industrie dans tous les secteurs d'activité, ce que la France n'a pas pu faire. Bon, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Eh ben, les sanctions sont là, donc on n'achète plus à la Russie, on ne vend plus à la Russie parce qu'elle dit, ben, puisque vous voulez pas, vous êtes fâché avec tout, je ne vous achèterai pas. La Russie a aussi acheté des machines-outils en Allemagne. Bon. Ben, c'est plus possible. Et donc, ce qui se passe avec le problème de l'approvisionnement en gaz, etc., tout ça fait que depuis quelques semaines maintenant, le déficit de la balance commerciale allemande est en déficit. Mais elle a plongé. Elle a plongé. C'est-à-dire que l'Allemagne se retrouve dans une situation, donc je dis 91 et on est en 2021 un peu plus, ça fait 30 ans que l'Allemagne était pleine de joie parce que les caisses étaient pleines, on pouvait investir. J'allais pas dire la suffisance, mais l'espèce de bonhomie du gouvernement Merkel, bonhomie d'un État bourgeois, heureux, parce qu'il a de l'argent, il fait ce qu'il veut, on le respecte parce qu'il n'est pas trop dangereux militairement, et en même temps, économiquement, il pèse un poids très lourd. Et en plus, il avait sous sa coupe la Banque Centrale Européenne, dont tous les gouverneurs étaient aux mains de l'Allemagne, c'est à Francfort, c'est pas tout à fait par hasard, et ils avaient une monnaie forte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une monnaie forte ? Ça veut dire qu'une machine-outil d'un type particulier, dont l'Allemagne est le seul producteur mondial, elle peut la vendre à un prix très intéressant parce qu'il n'y a pas de concurrent. C'est ça l'industrie capitaliste. Et donc, que ça se paye en euros, même si l'euro est cher, c'est pas grave. Par contre, effectivement, les industries françaises, si comparées à des machines-outils très pointues, vous faites, je ne sais pas quoi dire comme exemple, que des machines à café ou des choses comme ça, bon, vous n'êtes pas seul sur le marché mondial. Et donc, si votre monnaie est forte, vous n'en vendez pas beaucoup. Hein. Ouais. Donc, le déficit de la balance commerciale française, il tient à ça. Alors, il ne présente des aspects roses, entre guillemets, que pour les industries de l'armement. Hein, mais pour le reste, et je mets de côté l'agriculture avec les exportations de céréales, mais pour le reste, l'industrie française est relativement en retard par rapport à l'industrie allemande. Il y a toute une série de produits qu'elle ne sait pas faire. Et donc, elle ne sait pas vendre. Et donc, la France est installée structurellement dans un déficit commercial permanent, enfin, qui date depuis... Et il y a de bons esprits qui disent, en fait, l'euro a été la monnaie la plus favorable à l'industrie allemande et la plus défavorable pour l'industrie française. Bon. Parce que quand l'Allemagne colonisait, je remets toujours le terme entre guillemets, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie, la Hongrie, etc., la France, elle ne pouvait guère, elle ne pouvait pas amplifier la colonisation ni de la Martinique ni de la Guadeloupe. Et donc, il n'y avait pas de ressources. Et elle n'a pas fait, d'ailleurs, elle n'avait pas installé d'industrie ou pas grand-chose dans les pays africains dans lesquels elle est encore colonisatrice. C'est ça le résultat. Et donc, ça amène à penser que le gouvernement allemand, qui, dans les derniers sommets, s'est aligné, je vais parler du sommet du G7, s'est aligné sur les positions états-uniennes, va commencer très, très vite à se mordre les doigts. Parce qu'il va dire, d'une part, moi, je suis en déficit, ce qui ne m'a jamais arrivé, alors ils ont encore des réserves et tout, ça va. Et puis, le patronat allemand va commencer à dire à son gouvernement, c'est bien joli, votre politique anti-russe et anti-chinoise, mais à qui on vend, maintenant, hein? Et donc, la tension politique est en préparation. On va la voir venir. Ça, c'est compliqué du fait que le sommet, donc j'ai parlé du sommet des BRICS, il s'est tenu donc aussi deux sommets importants, un du G7 et un autre de l'OTAN. Alors le sommet du G7, il a ceci de particulier qu'il a... Alors tout le monde s'est extasié, a montré de la surprise en disant les alliés du G7, donc les puissances capitalistes Europe plus États-Unis et Canada, ont dit que, clairement, la Russie était un danger stratégique et la Chine aussi. Bon. Alors il n'y a rien de nouveau, je veux dire. Le fait que la Russie et la Chine soient notées comme les ennemis principaux des États-Unis, c'était déjà fait dans les documents officiels du Pentagone et de la Maison-Blanche. Bon. Simplement, ce qui s'est passé au sommet du G7 en Allemagne, c'est que l'OTAN, le G7 a suivi et a adhéré dans sa totalité aux positions des États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis sont les maîtres d'un camp qui fait la guerre, sa guerre à lui, la guerre contre la Russie et contre la Chine. C'est-à-dire qu'il y a eu ralliement des cinq autres, puisque le Canada, on peut dire, était déjà sur la position des États-Unis, mais tous les autres se sont jetés dans les bras des États-Unis pour dire « on est d'accord avec votre politique ». Bon. Ce qui va amener, alors la conséquence pour l'Allemagne, je viens de la citer, pour la France, il y en aura du même ordre, hein, ce qui va amener à des tensions extrêmement importantes dans la politique des autres États, l'Italie, en particulier la France, parce qu'effectivement, on sent bien, même à certains propos d'Emmanuel Macron, qui sent bien que ça va mal se terminer, cette opération, mais il ne sait pas comment le dire, parce qu'il est tellement lié aux États-Unis, les États-Unis ont tellement favorisé son accès au pouvoir qu'il a de la peine à prendre ses distances. Donc il se défend en disant du mal de Poutine à l'occasion, il croit que ça suffit. Mais en fait, il est, je pense, assez conscient du fait que la position de dire la France, l'Allemagne, l'Italie, et subsidiairement donc les pays du Benelux et l'Espagne, sont alignés totalement sur la position des États-Unis, c'est commercialement intenable. C'est commercialement intenable et ça va coûter très très cher. Ça va coûter très très cher, ne serait-ce que par le prix des carburants qu'il faudra acheter aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, on a là un facteur d'éclatement du bloc. Alors, c'est-à-dire au moment, et c'est pour moi, c'est comme ça que je résume la réunion du G7, au moment où le G7, c'est « je ne veux voir qu'une, qu'une file hein, ». Et en fait, il n'est pas aligné du tout parce qu'au fond, les intérêts des uns et des autres sont très, très opposés. Et que le fait d'affirmer la politique des États-Unis, c'est la nôtre, tout le G7 est d'accord avec la politique des États-Unis, c'est en fait c'est une façon d'aller à l'échec de façon assez sûre pour chacun des membres, États-Unis mis à part. Bon, non, mais...
Bien sûr.
C'est quoi...
Bon. Non, c'est quoi le Non, c'est un alignement idéologique qui est lié par... Il y a toute une série de liens, c'est vrai, que les États-Unis savent entretenir. Peut-être de la corruption, peut-être... Enfin, on peut imaginer à tous les niveaux. Et puis le fait qu'un certain nombre de gouvernements soient liés, enfin, ou de gouvernants individuellement soient liés. C'est pas tout à fait par hasard, on en parle moins maintenant, mais quand on dit qu'il y a des sélections en France de ce qu'on appelle des Young American Leaders, c'est-à-dire que les États-Unis, depuis des décennies, sélectionnent dans la classe politique française, les gens qui, pour eux, sont les meilleurs pour leurs intérêts pour arriver au pouvoir en France, ça finit par produire des effets. Ça produit Sarkozy, ça produit Hollande, ça produit Macron. C'est-à-dire, c'est pas par là, trois présidents de la République successifs. Alors, Chirac était passé un peu à travers, il était un tout petit peu plus indépendant, mais là, les trois qui ont suivi sont des jeunes leaders sélectionnés par les États-Unis et roulant pour les États-Unis.
C'est ça.
Bon, donc là, ça, c'est aux citoyens français, aux électeurs français, de commencer à sortir de cette ornière-là. Mais ça sera pas très, très facile. On en reparlera. Ça, c'était donc pour parler des affaires générales.
Surtout en ce moment avec l'histoire avec la Russie.
Bien sûr, forcément. Donc on en reparlera, mais donc notez ça, le G7 en fait voit l'alignement officiel de tous les membres du G7 sur la politique des États-Unis, et en fait cet alignement cache des difficultés à venir très considérables, je dis déjà la chute du commerce extérieur allemand et d'autres, le prix des carburants un peu partout, je m'arrête pas sur les grèves pour le carburant, mais il y en a dans le monde entier maintenant, même en Corée du Sud il y a eu une grève d'un tiers des chauffeurs routiers, c'était jamais vu. Faut voir, la Corée du Sud, c'est une économie très très en avance, mais c'est une économie qui sort quand même de 20 ans de dictature militaire. Et donc qu'un tiers des chauffeurs routiers sud-coréens aient fait grève parce que le carburant était trop cher, c'était une innovation. Ça s'était jamais vu. Et effectivement, avec tout ce qui s'est passé qu'on connaît nous, donc la rupture des chaînes logistiques, ça a duré que quelques jours. Mais ça a été un choc même politique et moral dans la Corée du Sud. On n'avait jamais vu autant de grévistes dans ce pays. De grévistes vrais, parce qu'il y avait aussi un classique dans la Corée du Sud semi-dictatorial, je suis gentil, c'était de dire, on voyait des ouvriers sur les chantiers navals ou usines sidérurgiques, qui avaient un bandeau en anglais ou en coréen en grève, et qui en fait n'étaient pas en grève du tout. Bon, mais ça voulait dire ils manifestaient leur mécontentement de cette façon-là. Là, on a eu une grève des transporteurs routiers, un tiers des affiliés, c'est-à-dire qu'il y a un syndicat qui a été obéi, alors que les syndicats sont organisés en Corée du Sud pour qu'ils ne soient pas, pour que ce soit les travailleurs qui obéissent, mais pas le syndicat. Ça, c'est des événements qui se passent partout par rapport au prix des carburants. C'est un phénomène général. Et j'en arrive, je regarde l'heure. Alors, oui, on va passer une petite musique pour que je reprenne mon souffle.
Oui, pour poser un peu avec cette chaleur.
C'était juste une évocation, c'était donc l'année dernière, c'était la célébration de la création, le centenaire de la création du Parti communiste chinois. Là aussi, tout ça est dans le long terme, c'est-à-dire que la création du Parti communiste chinois, c'était il y a 100 ans, hein, et donc ils peuvent dire qu'on a quand même pas mal progressé depuis ce moment-là. Et puis, ils ont fixé comme objectif, puisque là aussi, on est dans un temps long, avec des projets longs, ils disent, en 2049, on récupère Hong Kong en 2045, 47, et en 2049, on a 100 ans de République populaire chinoise. Et on fera le bilan. Voilà. Et on va terminer, donc, puisque l'heure avance, on va terminer par faire un tour d'horizon de la situation sur le terrain ukrainien.
Voilà.
Alors, sur le terrain ukrainien, il se passe un certain nombre d'événements, c'est-à-dire que l'avancée de l'armée russe et de l'armée des deux républiques, désormais reconnues et par la Russie et par la Syrie, je note qu'effectivement, les deux armées ont été reconnues par la Russie et par la République arabe syrienne. Donc il y a un progrès réel. Et il est clair que sur le terrain, les capacités dans l'artillerie, le nombre de victimes du côté de l'armée ukrainienne ou de ce qui sert d'armée, parce que ce n'est pas très clair, entre les volontaires, les miliciens, les fascistes, on ne sait pas trop. Enfin, les pertes sont à un niveau considérable. L'armement est manifestement insuffisant et il n'arrive pas forcément à destination.
Les armes sont interceptées.
Et les armes sont interceptées. Alors voilà ce qui va me donner l'occasion de parler de ce qu'on a mis en avant à propos de l'opération, de ce qu'on appelait...
Et je voudrais dire quand même que les armes qui sont en exil en Ukraine vont être vendues au marché noir.
Sûrement, absolument. Et vendues au marché noir et se retrouver dans je ne sais quelle Libye ou dans je ne sais quelle Bosnie-Herzégovine. Bon. Alors je vais vous parler du centre commercial de Kremenchug. C'est la dernière opération d'intoxication de la propagande occidentale. Alors Kremenchug, donc, il y avait dans cette petite ville qui n'est pas très très loin de Kiev, les ateliers d'une usine, une usine Kretschma, qui était une usine qui fabriquait le matériel mécanique, mais en fait où étaient stockées les armes en provenance des États-Unis et d'Europe, qui arrivent en abondance. Alors vous pouvez imaginer que dans une guerre, il y a aussi des services de renseignement et que les agents de renseignement russes savaient très très bien et surveillent les trajets, que ce soit des trajets en camion ou en chemin de fer, des armes qui arrivent par la frontière polonaise ou par la frontière slovaque. Bon. Donc ils savaient très bien que c'était là. Et il se trouve donc que cette usine a été bombardée par des missiles russes, elle a été détruite, donc tout ce qui était dedans a été détruit. Et on a monté à côté une opération de propagande disant que l'armée russe avait attaqué un centre commercial. Alors, je précise, tout le monde peut le faire. Vous faites une recherche de Google sur le centre commercial, un mal, comme on dit, les grands centres commerciaux à la mode dubaïenne. Vous faites une recherche. Ce centre commercial est fermé depuis plusieurs mois. Mm-hmm. Donc, il n'y avait personne dedans. Et donc, le feu qui a été mis par les missiles dans l'usine de Kremenchug s'est propagé dans ce centre commercial vide. Voilà, point. Bon. Alors, à partir de ça, on nous montre une opération en disant « Ah, ça y est, encore les Russes tuent des civils ». Alors, les Russes ne tuent pas des civils, c'est pas ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient démontrer que chaque fois qu'il arrive des armes d'Occident, ils savent où elles sont et ils se débrouillent pour que, pas les armes, les prendre sur la figure, je vais parler vulgairement, mais c'est exactement ça ce qui se passe. Et j'ai été alors assez surpris, mais pas à peine surpris au fond, parce qu'il est clair que c'est comme ça que ça s'est passé. Ça a été d'ailleurs l'occasion d'une prise de position. Alors c'était intéressant parce que l'ambassade de Russie en France s'est fendue d'un communiqué qui a été rendu public. Donc là on a déjà un début de moindre censure, j'allais dire, dans lequel la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, donc Maria Zakharova, a dit... Alors je la lis. À quelques dizaines de mètres du centre commercial de Kremenchug se trouvent les ateliers de l'usine Kretschma où étaient stockées des armes en provenance des États-Unis et d'Europe destinées aux militaires ukrainiens dans le Donbass. Ce sont ces ateliers qui ont été détruits par des frappes de haute précision des forces aérospatiales russes. Bon. Alors ce communiqué est en français, il a été rendu public et il a été publié.
Surtout, précision,
tout
haute
à fait.
Précision.
Voilà. Tout à fait. Alors c'était
donc,
très
c'est
grand.
Pas, voilà. Oui, non, c'est non. Pas une erreur.
Alors ce qui m'a amené à m'arrêter là-dessus, c'est que j'ai regardé sur une chaîne, je crois LCI, peu importe, un monsieur qui a du poids dans la communauté diplomatique française qui s'appelle monsieur Hubert Védrine. Alors pourquoi il a du poids? D'abord parce qu'il a été secrétaire général de l'Élysée, c'est pas tout à fait rien. Il a été conseiller de Mitterrand assez longtemps, et puis des successeurs aussi. Et M. Védrine, alors qu'il tient des propos très, très modérés sur la guerre d'Ukraine, etc., en même temps, au passage, il dit le massacre des personnes du centre commercial. C'est-à-dire qu'en fait, il démontre qu'à travers, sous son langage de monsieur installé, qui a du passé, qui est diplomate et tout, il véhicule les mensonges de masse.
Une façade qu'il a voulu se donner. Oui.
C'est une façade. Et donc, ce bon papa, j'allais dire ce bon papa diplomate, il ne faut pas brusquer les gens, il faut ci, il faut ça et tout, en même temps, fait un travail de propagandisme et de bas étage. hein, parce qu'il le sait, il a certainement même lu le communiqué de l'ambassade de Russie en France et tout. Mais il fait son travail de propagande parce qu'on lui a dit, alors la chaîne qu'il a invitée lui a fait comprendre que ça, il fallait le dire, parce que c'est ça que la chaîne vend à l'opinion française. Les Russes ont tué des gens dans un centre commercial. Ils ont tué personne.
Ils ont démenti les Russes.
Voilà, c'est tout. Bon, point à la ligne. Hein. Et tous les gens qui veulent savoir le savent. Et je dis, cherchez sur Google, c'est très facile de trouver que le centre commercial était fermé depuis plusieurs mois, qu'il n'y avait personne sur le parking, il n'y avait pas de clients, etc., etc., etc. Mais on est dans la propagande à la limite bête, mais vous savez, c'est un vieux truc de la propagande, le démenti pèse beaucoup moins que l'affirmation. Et surtout quand c'est un monsieur Védrine qui, avec le prestige de grand diplomate français depuis quasiment un demi-siècle, dit il y a eu un massacre dans un centre commercial.
C'est comme certains généraux français qui sont à la retraite, voilà, et qui donnent des informations complètement erronées.
Complètement erronées. Ouais. Donc, alors, ça, c'était pour dire un mot sur la situation en Ukraine. Pour la suite, voilà, il nous reste 4 minutes. Pour la suite, qu'est-ce qui se passe? Bon, au niveau militaire, il n'y a plus de doute sur l'incapacité de l'armée ukrainienne d'avancer. Elle ne fait que reculer, donc elle a perdu Lichichkansk, elle a perdu Severodonetsk, etc. Bon, il n'y a plus de possibilités. Alors, après, la question qui se pose, c'est de savoir à quel moment Zelensky comprendra qu'il faut qu'il lâche, c'est-à-dire à quel moment les sponsors de Zelensky lui diront de toute façon, là tu vas encore perdre encore une province de plus, tu vas encore perdre du territoire et tout, il faudrait peut-être mieux négocier avant que tu perdes tout. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des observateurs internationaux distants disent, parti comme c'est, la Russie peut aller pratiquement où elle veut dans l'Ukraine. Mais il est clair aussi, d'après ce qu'on comprend, c'est que la Russie ne veut pas toute l'Ukraine. Elle voudrait les endroits où il y a des russophones, où elle est établie, où elle est bien accueillie. Je rappelle qu'à la libération du Lugansk, la foule est dehors et applaudit. Ouais, hein, c'est pas seulement, ils ont pas, hein, ça veut dire qu'ils ont souffert de l'occupation et des tirs ukrainiens. On a trouvé des fosses communes énormes. Hein. Donc ça existe.
Ouais, mais ce qui est embêtant, c'est que l'OTAN, l'Amérique, elle n'arrête pas de fournir des armes.
Voilà.
Et bon, quand
voilà. Alors il faut savoir d'ailleurs, et je dis un dernier mot sur l'OSCE. Alors vous savez ce que c'est que l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité Collective en Europe. Donc c'est un organisme mis en place dans lequel il y a les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Union européenne et la Russie et l'Ukraine. Bon, cette OSCE qui soi-disant était neutre, puis c'était l'application des accords d'Helsinki, c'était la fin de la guerre froide sur le papier. Cette OSCE, les forces russes, quand elles ont réussi à investir un certain nombre de lieux où il y avait l'armée ukrainienne, les observateurs de l'OSCE travaillent la main dans la main avec les militaires et les services de renseignement ukrainiens. C'est-à-dire que l'OSCE a trahi sa mission, on le savait déjà, maintenant les Russes ont les preuves. C'est-à-dire qu'ils pourront dire « cet organisme-là est un faux organisme neutre, puisqu'en fait, il travaille pour notre adversaire en permanence ». C'est là-dessus que je voulais insister. C'est très intéressant pour la suite. Alors donc, avec le dossier des laboratoires pharmaceutiques, de l'OSCE qui travaille, etc., on a, et c'est ça qui est important pour la suite, un espèce de monde qui était organisé autour d'Helsinki, les accords, la guerre froide qui est finie, etc., qui est en train de s'écrouler parce que l'Occident a totalement perverti la totalité de ce système de soi-disant de neutralité et de fin de la guerre froide. La guerre froide n'est pas finie, elle se continue sous d'autres formes, du point de vue, des États-Unis. Par contre, la voie qui ouvre par les BRICS, par l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est une toute autre voie de mise en commun d'intérêts, de discussion entre partenaires égaux, et ce n'est pas du tout la domination d'un camp qui se réduit aujourd'hui. C'est le G7 contre le monde entier, c'est ça qui est en train de se mettre en place. Et c'est là-dessus que je vais clore notre petite intervention. Merci de votre attention et on se retrouvera encore mardi prochain parce que les vacances, c'est pas pour l'actualité internationale. Merci Aïcha.
On met le Blue World ou...
Oui, oui. Ah voilà. Alors, chanson américaine, c'est blues, le blues de la guerre.
Vietnam, Vietnam, everybody crying about Vietnam. Vietnam, Vietnam, everybody crying about Vietnam. Below Longley, they'd kill me down in Mississippi. Nobody seemed to give a dime. Oh God, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. If you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam.